Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
L'Auriol, juillet 2022. Au cœur d'un été caniculaire et tout près de la route, quelques brebis profitent de l'ombre des vergers. Près d'elles, je rencontre Martin et Lucie qui les observent. Ils sont là dans le cadre du projet Écorce, qui vise à expérimenter en Biovallée le pâturage ovin en culture pérenne. Reportage.
Bonjour. Théo pour Radio Saint-Ferréol, je cherche Martin. Tu saurais me dire ?
Quelque part, verger. Okay.
On essaie de mimer des arbustes fourragés. Là, donc c'est du frêne. Et il y a plusieurs endroits où, en fait, pour mimer ça, on accroche des branches à un support métallique. Tu vois, il y a juste une tige de fer à béton.
Okay.
Pour faire semblant que c'est un petit arbre.
Pour tromper les brebis.
Ouais, enfin, on se doute qu'elles sont pas dupes, mais dans le comportement d'alimentation des brebis, il est possible qu'il y ait des enjeux autour de lever la tête pour manger, tu vois, de manger en hauteur.
Ouais, ça marche bien, hein. Moi, j'ai
fait. C'est le principal. Ouais. Voilà, on se rend compte quand même que les moutons ont des perceptions que nous, on n'a pas. Donc, même si les humains sont dupes, peut-être que les moutons ne le sont pas.
Je suis Martin Trouillard, j'ai plutôt une formation de scientifique en physico-chimie appliquée au système biologique. Après ma thèse, j'avais déjà besoin de prendre l'air, je pense. En plus, ma thèse, je faisais de la spectroscopie, donc j'étais beaucoup dans des pièces obscures parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des lumières qui interfèrent avec mes mesures. Donc j'avais besoin de prendre l'air et j'avais des questions qui me taraudaient un peu sur les systèmes agricoles, alimentaires, etc. Je me demandais un peu comment était produite la nourriture que je mangeais. Donc j'ai commencé par le début, c'est-à-dire que je suis allé bosser dans les champs, quoi. Et au bout d'un moment, évidemment, j'ai voulu que ça évolue, donc j'ai commencé à avoir un peu ma propre petite structure. Je m'occupe d'un petit verger qui est à Heure, du cerisier surtout. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'antenne française du Fibel qui s'ouvrait à côté de là où j'étais, c'était un peu une occasion rêvée de reprendre du service dans la recherche et un peu d'officialiser des petites expérimentations que moi je commençais à faire dans mon coin et de leur donner de l'ampleur, quoi.
On essaie de tester un peu l'appétence différentielle de ces espèces fourragères par rapport aux arbres fruitiers, en fait. Parce que c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est comment on fait pour que nos arbres fruitiers ne se fassent pas bouffer.
Ah, okay.
Tu vois, on aimerait dans l'idéal générer un effet de préférence sur les arbustes fourragés par rapport aux arbres fruitiers.
Et pourquoi du frêne d'ailleurs ?
Le frêne est connu comme un arbre fourragé de bonne qualité, au moins sur le plan de la nutrition, tu vois, c'est-à-dire que ça contient des éléments nutritionnels que les moutons aiment bien. Après, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de référentiels en termes d'appétence, tu vois, c'est-à-dire de l'envie que les moutons peuvent avoir de manger tel ou tel arbre ou arbuste. Mmh. Et en fait, ça peut être assez différent, tu vois. Par exemple, le chocolat, ça n'a pas forcément une valeur nutritionnelle exceptionnelle, et pourtant, c'est assez appétant, en tout cas, en ce qui me concerne.
Là, on parle plus de brebis, là.
Hein, on parle plus de brebis, non.
Le Fibel, c'est un institut qui, à la base, est né en Suisse allemande. Je pense que c'est le plus important institut de recherche spécialisé dans l'agriculture biologique en Europe et dans le monde. Quand je suis arrivé au Fibel France, je me suis un peu approprié un sujet qui était ouvert et qui m'intéressait beaucoup, qui était les risques d'empoisonnement au cuivre pour les moutons qui pâturent dans les vignes. Donc c'était juste du pâturage hivernal dans les vignes. Et à la suite de ça, des discussions qu'on avait eues aussi, notamment avec Brice Lemaire, qui était chargé de mission à Agribiodrome sur l'Arbo et tout ça, et avec Élise Chevalier à la CCVD, et ben, on a eu envie de rebondir. Et donc voilà, moi j'ai répondu à un appel à projet de la Fondation de France sur l'agroforesterie. On a embarqué à bord Agribiodrome, la CCVD, le lycée du Valentin et aussi une entreprise coopérative qui s'appelle Agrouf, qui est dans le Gard, qui est spécialisée dans l'agroforesterie. Et voilà, on a monté ce projet-là sur le pâturage ovin, plutôt donc en saison de végétation.
Donc là tu vois, nos branches n'ont pas été bien consommées, quoi, parce qu'on vient juste de les mettre sur la parcelle. Et du coup, ils ont trouvé plein d'autres trucs à manger, plein de pêcher. Ah, ça s'intéresse à ce que je veux.
Bon, est-ce que c'est parce qu'on est à côté qu'il y a un petit bidon ou...
Ça peut être pour plein de raisons, ouais. Elles sont souvent curieuses quand même.
Donc ça peut être ça, ça peut être parce qu'on arrive et que du coup on arrive à quelque chose de nouveau, elle a envie de goûter. Ouais.
Moi j'avais envie qu'on puisse, en tant que chercheur, qu'on puisse s'autoriser à prendre un peu des risques, à aller sur les choses que d'autres ne font pas et que justement que les producteurs ne font pas trop parce que on sait pas trop où est-ce que ça mène quoi. Parce que voilà, les moutons ils vont manger les feuilles, parce que c'est compliqué en termes d'organisation, parce que au printemps c'est la période où on fait les traitements, donc voilà, etc. Bah, justement, allons nous intéresser à ce genre de choses-là, parce que les producteurs ils n'ont pas le temps, en fait ils ont besoin qu'il y ait des structures comme nous qui fassent ce boulot-là, plutôt que nous on soit toujours en train de courir après les innovations que les agriculteurs produisent en fait. Quoi.
Tu vois, ici elle est plutôt belle l'herbe en fait. Et en fait des moutons qui se retrouvent comme ça avec une belle herbe et aussi des arbres, eh ben ils vont manger des deux, tu vois. Mmh. Alors que les moutons ils sont plutôt réputés pour être des animaux brouteurs, donc on s'attendrait un peu, on va dire, à ce qu'ils mangent l'herbe et qu'une fois qu'il n'y a plus d'herbe, ils mangent les arbres, tu vois. Mmh. En fait c'est pas ça qu'ils font du tout. Ils arrivent, ils mangent de l'herbe, ils mangent des arbres de manière à peu près équivalente. Et ça nous arrange pas trop. Mmh. Et voilà, typiquement dans la filière ovine. Ça dérange personne de mettre des moutons 100% du temps sur de l'herbe et qu'ils voient jamais un arbre de leur vie, quoi. Et bah peut-être qu'en fait c'est un besoin fondamental du mouton de manger aussi des arbres, quoi. Donc on propose d'autres choses et on espère que ça va être plus appétant. Mais nos premiers résultats ils montrent qu'en fait pas trop. Même si entre les différentes espèces qu'on a mises, on observe des différences d'appétence. Le noisetier par exemple là, dans notre situation en tout cas, il est beaucoup moins appétant que le frêne ou le mûrier. Et on aurait espéré qu'il se précipiterait sur le mûrier parce que c'est réputé pour être assez appétant. Et en fait, voilà, et du coup, nos branches fourragères, elles sont assez peu consommées au début. Et une fois qu'ils n'ont plus beaucoup de pêcher à manger, et ben là, ils vont manger nos branches fourragères, tu vois. C'est aussi que la quantité de fourrage arboré que nous, on apporte est assez faible. Et du coup, en fait, on opère plutôt un effet de dilution que de préférence, tu vois. Et comme on n'apporte pas beaucoup de branches, et ben notre effet de dilution, initialement, il est faible. Et au fur et à mesure que les branches sont mangées, notre effet de dilution devient significatif, tu vois. Voilà.
C'est pas seulement une lubie de chercheur, ça naît d'une envie aussi, à la fois du côté des arboriculteurs et des éleveurs.
C'est ça, le pâturage ovin dans les vergers, ça intéresse pas mal les arboriculteurs, parce que ça permet de limiter une des choses que les arboriculteurs n'aiment pas particulièrement faire, qui est de broyer l'herbe dans les vergers, où ils passent quand même du temps en machine, donc ça veut dire aussi du gasoil, etc. Et ça permet aussi de procurer une ressource pour les éleveurs qui, parfois en hiver, peuvent chercher une herbe de qualité. Et aussi, du coup, dans le cadre du projet, on s'intéresse à l'herbe qu'il peut y avoir dans les vergers en été ou au printemps et qui peut être intéressante pour les éleveurs qui ne partent pas en estive. Trouver de l'herbe à une époque où, par ailleurs, c'est plutôt cramé un peu partout dans les prairies. Et là, on a une bonne illustration actuellement avec une année très sèche où les prairies sont vraiment, vraiment hyper cramées. Et où dans les vergers, bah, comme tu as pu voir, on continue à trouver une herbe qui, par endroit, peut être très très jolie, quoi. Donc voilà, on cherche clairement, le truc il est tout simple à la base, hein, c'est il y a quelque chose qui est un déchet pour les uns, qui est une ressource pour les autres. On essaie de faire en sorte que ça puisse se rencontrer, quoi.
Et du coup, vous avez fait différents parcs.
Ouais, c'est ça.
Plusieurs petits parcs, quoi.
C'est ouais. Ça. On fait des petits parcs, des surfaces équivalentes, avec à peu près le même nombre d'arbres à chaque fois. Parce que justement, le but du jeu, c'est de comparer les vitesses de consommation des feuilles, des arbres, dans les différentes situations dans lesquelles on a placé les moutons. Mmh. Donc, pour qu'on puisse comparer, il faut que ce soit comparable. Donc, on met le même nombre de moutons, de poids équivalent, de même race, de tout ce que tu veux.
Sur la même surface de parc à chaque fois.
Sur la même surface de parc, avec le même nombre d'arbres. À peu de choses près, hein. Ouais. Pas non plus.
En fait, il va exister plusieurs profils entre des arboriculteurs qui vont être prêts à accueillir un éleveur ou des éleveurs qui vont chercher de l'herbe à cette période-là, qu'on va essayer de faire se rencontrer et de voir dans quelle mesure on arrive à faire coïncider leur système pour que ce soit praticable pour les deux. Et c'est pas une si mince affaire que ça, hein. Et il peut y avoir un autre modèle, on va dire, qui est essentiellement des arboriculteurs qui ont fini par se décider à adopter des moutons, soit parce qu'ils avaient vraiment envie qu'il y ait une présence animale dans leur verger, ça c'est assez fréquent. Et ils ont un peu un mouton dans le ventre, comme dit Sébastien Blache, qui est un éleveur arboriculteur du secteur. Et du coup, qui vont utiliser les moutons un peu comme outil de désherbage dans les vergers. Et qui, dans une certaine mesure, vont être prêts à en subir les conséquences sur un peu d'adaptation de leur système de production.
Celle du fond, c'est un peu similaire à ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les arbres fourragers. Sauf que, en fait, on essaie de les obliger à consommer les arbres fourragers, des arbres fourragers, tu vois. Donc en fait, on les laisse dans une zone où il n'y a pas d'arbres fruitiers,
Au bout d'un moment, elles ont mangé toute l'herbe, donc elles sont pas contentes, elles ont faim. On leur propose des branches fourragères, donc elles se jettent dessus, tu vois. Et une fois qu'elles ont bien mangé, là, on les lâche dans le verger. Et on espère qu'elles vont plutôt manger l'herbe. Mais c'est aussi une manière de mieux comprendre les préférences alimentaires des moutons entre l'herbe et l'arbre, en fait, quoi. Et est-ce qu'il est envisageable, en fait, de remplir le besoin des moutons de manger des arbres, et que du coup, quand elles se retrouvent dans un verger, elles n'en aient plus tellement envie, elles mangent plutôt l'herbe.
Voilà. Et à côté, alors, il y a un pêcher avec, on voit deux petits morceaux de rubalise.
Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est la manière dont on s'y prend pour savoir quelle est la pression que les moutons exercent sur les arbres fruitiers. C'est qu'on repère des branches, et évidemment, on ne les repère pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup des branches dans un verger. On s'est contenté de choisir uniquement des rameaux qui sont à une hauteur inférieure à 1,20 m, pour être sûr que potentiellement ces rameaux peuvent être intégralement consommés si les moutons ont faim, s'ils sont dans des situations où ils ont envie de les manger. Et du coup, sur l'ensemble de la petite parcelle dans laquelle on a mis les moutons, il y a des rameaux qui vont être consommés de manière intégrale, d'autres qui vont l'être pas du tout. Donc sur l'ensemble de tout ça, on a accès à peu près à une dynamique de consommation des arbres fruitiers par les moutons. On fait aussi des mesures sur l'herbe et on essaie de mettre en rapport justement la hauteur d'herbe, la qualité de l'herbe et la vitesse de consommation des branches des fruitiers. Donc ça c'est un témoin où on n'a rien fait du tout. Donc les moutons sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et au bout là on a une modalité où on a appliqué une substance répulsive sur le feuillage.
C'est quoi cette substance du coup ?
Eh ben c'est de l'extrait de merde de chien. L'excrément canin, pour dire ça plus proprement. On interprète ça par le fait de s'associer aux prédateurs, c'est ça, loup, tu vois, au loup. Ouais. Et en fait, ça a l'air de vraiment bien marcher, quoi.
Tu peux me dire ce que tu es en train de faire ?
Je suis en train de compter le nombre de petites et de grandes feuilles sur les rameaux des arbres qu'on suit dans le cadre du projet.
Okay. Et là, alors, qu'est-ce que tu observes depuis ce matin sur cette parcelle ?
Bah, sur cette parcelle, en fait, on a pulvérisé un répulsif à base de déjection canine. Et en principe, dans ce parc-là, on voit qu'il y a un peu moins de dégâts sur les arbres. Moi, c'est Lucie. Et donc, j'ai été embauchée ici, au Feeble, en tant que stagiaire, pour travailler avec Martin sur le projet Écorce. Et donc, c'est un stage que je fais dans le cadre de ma licence professionnelle qui s'appelle GENA. C'est gestion agricole des espaces naturels et ruraux. Et c'est à Florac, en Lozère.
Tu vois des dégâts là, sur les branches ici,
enfin. Non, pour l'instant. Bah, là, c'est que c'est la cinquième arbre sur le huitième que j'observe. Et, okay. Pour l'instant, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Toutes les feuilles sont là par rapport à hier.
Ce qui n'est pas le cas dans les autres modalités,
ouais, c'est vrai. Et puis les brebis sont toutes en train de brouter l'herbe.
Ouais.
Mais là, quand je m'approche un peu des feuilles, je sens pas une odeur vraiment désagréable. Donc j'espère que les brebis, oui.
Ça sent pas du tout.
En fait, oui, ça sent pas. Hein. Alors peut-être qu'on n'a pas l'odorat assez développé.
C'est sûr qu'on est vraiment nul par rapport à des brebis en termes d'olfaction.
Ce qui m'a intéressé, c'est surtout le fait de mettre des brebis dans les vergers et de pouvoir tirer des bénéfices à la fois pour l'éleveur et pour l'arboriculteur. Je trouve ça génial en fait. Enfin, et là, de voir les brebis pâturer dans le verger, ça a vraiment beaucoup de sens. Parce qu'on se dit qu'en fait, toute cette belle herbe là qu'on a sous nos pieds, s'il n'y avait pas les brebis, elle serait broyée. Je vois ça un peu comme du gâchis alimentaire, tu vois.
C'est pas de ma faute avec les micros là ?
Non.
C'est un peu la couleur du loup, hein, les bananes.
Vas-y, appelle Lucie.
Allez.
Avec le répulsif, on obtient à peu près ce qu'on souhaite, c'est-à-dire avoir une consommation qui soit séquentielle. D'abord l'herbe, ensuite les arbres. Nous c'est ça l'idéal en fait. Que le service soit rendu pour l'arboriculteur, tu vois, l'herbe est consommée. L'éleveur est content aussi parce que les moutons, ils ont bien mangé. Et puis, on n'a pas encore fait de dégâts sur les arbres et à ce moment-là, on les sort. Tu vois, ça, c'est la situation idéale, quoi. Et avec ce répulsif, on se rapproche un peu de ça. Mais on s'attend à ce que cet effet-là, il s'émousse au cours du temps. C'est-à-dire que plus les moutons vont être exposés à ce répulsif, logiquement, moins il va fonctionner, en fait. Mmh. Et une des choses qu'on a envie de voir, c'est est-ce qu'au fur et à mesure, les moutons s'habituent à cette odeur-là et finissent par quand même aller manger les arbres en se disant que finalement, c'est pas si grave. Voilà. Mmh.
Donc l'idée, c'est de les laisser un certain temps quand même sur la parcelle pour avoir le temps de les habituer, quoi.
Oui, d'avoir le temps de les habituer, et aussi voir à quel moment, en fonction de la hauteur d'herbe et de ce qui reste comme herbe, eh ben, ils vont quand même finir par se diriger sur la ressource arbre, même si elle est moins appétante, parce qu'on a mis dessus un truc qui ne leur plaît pas en termes olfactifs, quoi, tu vois.
Mmh. Là, tu vois qu'il n'y en a pas vraiment qui sont épluchés comme... Parmi les rameaux qui sont accessibles, là, tu vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont épluchés. Et ce qu'on avait vu les premières fois qu'on a fait ce genre d'application-là, c'était assez marrant, c'est quand les moutons sont arrivés, ils se jettent sur les arbres parce que justement, souvent, c'est une ressource qu'ils n'ont pas forcément à disposition. Donc quand on leur propose des arbres, souvent, ils les mangent en premier en fait. Et du coup, là, on a vu les moutons arriver dans la parcelle comme des fous et aller sur les arbres et puis les renifler et puis finalement aller manger l'herbe, tu vois. Et il y a vraiment un truc genre, ils ont été coupés dans leur élan de manger des arbres grâce à ça.
Il y a plein de manières dont les moutons peuvent surmonter un conditionnement, peuvent surmonter un empêchement comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont bossé en particulier sur une manière de guider les moutons à manger ce que tu as envie qu'ils mangent et pas autre chose. C'est une manière que, bon, nous on n'a pas testé parce que les producteurs ne sont pas du tout chauds pour faire ça, mais il y a une substance qui peut être administrée aux moutons, c'est du chlorure de lithium. Et en fait, par exemple, tu les ferais manger, là, mettons des branches de pêcher, et en même temps, tu leur files un peu de chlorure de lithium, tu vois. Et en fait, ça produit une gêne intestinale, et ça active les zones du cerveau qui sont associées à ce qui est toxique, ce qui est mauvais. Et du coup, les moutons retiennent que manger ça, c'est pas bon, en fait, tu vois. Mmh. Ça fait mal. Et après, tu les mets dans le verger, et ils vont pas manger les pêchers. Mais il a aussi été étudié de quelle manière les moutons peuvent lever ce phénomène d'aversion conditionnée. Et il y a plein de mécanismes évidemment par lesquels cette aversion ne va pas durer éternellement et il va y en avoir tôt ou tard certains qui vont décider que finalement ils vont quand même essayer et du coup les autres vont les observer, vont dire ah tiens mais finalement c'est peut-être pas si mal que ça, etc. etc. Donc on peut jamais rien faire de définitif avec les moutons, mais par exemple on pourrait s'imaginer si le pâturage dans les vergers est temporaire et que les vergers sont protégés par un répulsif, on peut s'imaginer que ils ont eu le temps d'oublier ensuite sur une autre parcelle le côté répulsif et quand ils reviennent sur un verger, hop, de nouveau, enfin, on peut imaginer qu'ils puissent se déshabituer aussi, quoi. Voilà.
Vous êtes un peu des psychologues du mouton finalement.
Et ben, ouais, c'est assez drôle que tu dises ça. On en est venu. Enfin, moi personnellement, j'en suis venu à être un peu psychologue du mouton, en effet. Et c'est surprenant parce que moi, je viens plutôt de l'arbre fruitier que de l'animal. Et je me suis intéressé au pâturage ovin parce que je m'intéresse aux arbres fruitiers. Et finalement, je me retrouve beaucoup dans le mouton là. En effet, on est en particulier sur une XP qui est très comportement alimentaire du mouton. Donc psychologie en effet, parce que l'appétence, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et qui a trait à des préférences personnelles, à des dynamiques sociales, à du génétique, à la qualité de la ressource alimentaire qui est disponible. Enfin, c'est hyper compliqué quoi, hyper complexe. Donc on devient un peu des psychologues des moutons. On va ouvrir une clinique de psychologie ovine.
Il y a vraiment des individualités, il y a des individus qui se démarquent, c'est un troupeau, mais avec chaque individu a un peu son caractère en fait. Ouais. Et ça c'est marrant à observer quand on est avec elle souvent.
On va peut-être devenir riche hein, si on ouvre une clinique de psychothérapie ovine.
Surtout avec le stress lié à la sécheresse qui arrive, je pense que... Alors, il y aura beaucoup de moutons stressés. Ouais.
Que pensez-vous de la qualité de l'herbe ici? Je sais pas si t'as vu, il y a un mouton il y a une des brebis qui s'est dirigée vers les arbres et qui puis finalement s'est ravisée. Tu sais, elle a vraiment levé la tête, genre tiens, je vais faire une petite bouchée en hauteur et puis ah bah non, finalement non. Ouais, ça a l'air de marcher bien et je suis content de constater que même dans la deuxième semaine de pâturage, et ben finalement le phénomène d'habituation il est pas flagrant. Voilà, donc peut-être qu'on a trouvé la formule magique.
Ça modifie pas trop leur comportement, par contre, de mettre ce type de répulsif lié à leurs prédateurs un peu de partout, je veux dire, en termes de stress.
C'est une des questions qu'on s'est posées. Et du coup, ça on envisage de l'observer par le biais, de la hauteur d'herbe aussi et de la consommation de l'herbe. Et on fait un suivi de leur poids aussi. Tu vois, donc si on voit que c'est des animaux qui ont limite perdu du poids, qui ne s'alimentaient pas, des choses comme ça, ça, on va le voir par ce biais-là. Et apparemment, on observe quand même que les moutons consomment de l'herbe et qu'ils ont l'air de vivre plutôt bien. Mais peut-être qu'on va observer que la consommation d'herbe ne va pas être très bonne dans cette modalité-là et qu'à la fin, il restera quand même de l'herbe malgré une présence assez longue des moutons sur la parcelle. C'est possible. Donc on essaie de suivre tout ça en temps réel.
Peut-être Théo, si tu peux juste en dehors du parc ou vraiment dans un coin. Ouais, c'est nickel si tu viens avec moi, c'est parti. Ouais. Là,
c'est, là. C'est bon, Martin, tu peux fermer.
J'y vais.
Wow.
C'est bon.
Oh, il est mort pâle.
Dans certaines races. Comme celle-là, hein, comme Shropshire, souvent c'est pas tous les moutons qui vont manger les feuilles des arbres. Et du coup, on a vu des situations où il y avait un mouton qui allait commencer à en manger beaucoup, hop, deux, trois qui se mettent à faire la même chose. Et en parallèle, il reste encore au moins un, deux, trois moutons qui les touchent pas du tout et qui continuent à brouter calmement, alors que les autres sont en train de faire un festin de feuilles d'arbres. Et en fait, on a observé que c'était les mêmes toujours qui faisaient ça. Et du coup, on s'est dit, il y a des préférences individuelles de manger l'herbe ou manger les feuilles des arbres. Et c'est super parce que du coup, on va pouvoir constituer un troupeau de brebis d'élite, en quelque sorte, qui ne mangent jamais les feuilles des arbres, tu vois. Donc, on était tout contents. Et on a testé ça, on a tenté de rassembler ces moutons en troupeau parfait, entre guillemets, qui ne mangent pas les feuilles des arbres. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce groupe, il y a des animaux qui se sont remis à manger les feuilles des arbres, qui ne le faisaient pas avant et qui se sont mis à le faire. Et dans le groupe inverse, de tous les animaux qui mangent les feuilles et qu'on n'aime pas, il y en a qui ont quasiment cessé de le faire. Tu vois, donc ça nous met plutôt sur la piste que, plutôt qu'une préférence individuelle, une des choses importantes, c'est plutôt un conditionnement social. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils doivent déterminer, apparemment, d'après des paramètres qui nous échappent, que certains moutons mangent les arbres et d'autres non, en fait.
T'es plutôt un sociologue du mouton qu'un psychologue.
Ouais, alors
la sociologie là-dedans, quoi.
Je suis pas non plus un sociologue du mouton, hein, parce que c'est hyper compliqué la sociologie du mouton. Et les collègues qui sont forts là-dedans, à qui j'en ai parlé, me disaient que rien que pour établir des critères de dominance au sein d'un troupeau, c'est assez compliqué en fait à arriver à déterminer quels individus sont dominants. C'est des choses qui peuvent changer hyper fort selon certaines conditions qui changent. Donc franchement, c'est très compliqué de faire la sociologie du mouton. Là, on a juste effleuré ça. On s'est rendu compte que l'alimentation arborée est dans une certaine mesure sous contrôle social, quoi. Voilà. Et c'est un peu déprimant pour nous. On aurait bien aimé s'acheminer vers une sélection éventuellement de moutons qui ne mangent pas les arbres, quoi. Du tout. Mais ça semble être une perspective un peu lointaine, quoi. Ou alors il faut sélectionner des moutons très petits, ça, c'est possible aussi, ça existe, qui vont du coup manger moins haut les arbres, des trucs comme ça, quoi. On peut aller loin dans l'adaptation du système fruitier au pâturage. On peut aussi aller loin dans l'adaptation du système ovin à cette situation de verger. Donc plutôt avoir des moutons tout petits, des moutons qui mangent pas les écorces, des choses comme ça. Mais voilà, on se pose aussi la question de comment est-ce qu'on mélange les deux en produisant que seulement des adaptations mineures, quoi.
Un peu du café.
J'arrive à voir celui de la cafetière, mais toi.
On peut en refaire. On avait observé il y a un an quand Merci. On faisait des observations comportementales, donc on restait beaucoup avec les moutons pour les observer. On avait capté que le bruit que ça fait quand un mouton mange les feuilles des arbres n'est pas le même que celui que ça fait quand elle mange l'herbe, quoi. Il y a plus un truc d'arracher les feuilles un peu, quoi. Et il nous avait semblé, mais on n'a pas pu faire des études propres sur ça, hein. Il nous a semblé qu'il y avait un peu de transmission du comportement par ce biais-là, c'est-à-dire que quand il y en avait une qui produisait ce bruit-là, ça alertait en quelque sorte les autres, et ça leur transmettait un peu l'idée, un truc comme ça, quoi. On peut vraiment pas être sûr de ça, hein, mais en tout cas, nous, on avait remarqué très clairement que le son est différent, et ça nous avait semblé être le stimulus qui déterminait la transmission du comportement, quoi. Voilà. Les petites nectarines toutes ratatinées, elles sont hyper bonnes en fait. Trop bon c'est ça.
Et ça les fruits ça les intéresse pas du tout par contre.
Si je crois quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui traînent par terre, on n'a pas vraiment pu observer ça beaucoup. Non mais en principe si ça les intéresse un peu. Ce que disent des éleveurs que nous on n'a pas vraiment pu vérifier, c'est que c'est qu'il y en a qui se spécialisent là-dedans, tu vois, qui vont pouvoir bouffer beaucoup de fruits. Ce qui peut parfois être problématique parce qu'elles peuvent se rendre malades. Tu vois. T'en veux une goutte ? C'est une petite cafetière, mais on peut partager.
Jusqu'à 1m20, c'est la hauteur à laquelle on estime que les brebis peuvent, peuvent manger. Au-delà de 1m20, ça devient un peu haut pour elles.
Donc finalement, il suffirait de récolter les fruits qui sont au-delà d'un mètre. Enfin, 1m, 1m20, ça fait déjà... Ouais, on loupe une partie de la récolte quand même.
Ça fait beaucoup. Et en fait c'est une bonne remarque, hein, mais si on fait ça, on se dirige en fait petit à petit vers un autre système de production qui est le système du pré-verger, comme c'est pratiqué en Normandie, par exemple, ou dans pas mal d'endroits, où on a plutôt des arbres de haute tige sur une prairie, en fait. Donc presque la production première de ce genre de système, c'est une prairie. Et il y a en plus de ça des arbres de haute tige qui ne présentent pas trop de risques vis-à-vis des animaux, si ce n'est des risques d'écorçage quand même. Et des fois, pour les bovins, il y a des frottements, des choses comme ça. Et parfois, ils peuvent même arracher des arbres. Enfin, voilà, donc il y a aussi des risques. Mais en tout cas, il n'y a pas ces risques par rapport aux branches fruitières qui sont à porter. Mais du coup, on est dans un système complètement différent, dont la finalité première n'est pas forcément le fruit, dont la récolte manuelle va être compliquée. Donc souvent, ça va être plutôt des fruits à cidre ou des choses comme ça. Donc là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir où est-ce qu'on arrive à trouver une synergie entre l'élevage ovin, qui est assez présent sur le territoire, enfin même très présent, l'arboriculture, qui est aussi très présente sur le territoire, et comment on arrive à se débrouiller, à trouver une synergie entre ces systèmes-là, tels qu'ils existent actuellement, en fait, en produisant des adaptations mineures, on va dire, de chacun de ces systèmes-là. Si on dit aux arboriculteurs, maintenant, il faut que vos branches commencent à 1m20 du sol, ils vont pas être d'accord, quoi, parce que c'est la partie qui valorise le mieux, c'est celle qui est au ras du sol et qui est facile à cueillir. Il y a un producteur avec qui on travaille, hein, qui est pas très loin d'ici, et qui lui accepte de se faire manger, de se faire éplucher ses arbres à hauteur de mouton, et en disant, elle me rend un service qui est extrêmement valable, et du coup j'accepte qu'elle ait quelques inconvénients en parallèle. Quoi. Avec ce parallèle que j'aime bien, il dit, on utilise tous des tracteurs dans les parcelles, on se pose jamais la question de quels inconvénients ça induit d'avoir des tracteurs. Et ben là, de la même manière, voilà, des brebis, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Et puis ce que lui dit, par exemple, c'est que l'étage le plus bas de végétation qui va perdre à cause des moutons se reporte sur un étage plus en hauteur, alors qui certes est un peu plus fastidieux à aller cueillir, mais qui sera peut-être un peu moins sensible aux maladies, qui sera moins sensible au gel, des choses comme ça. Donc voilà, ça se défend. J'aime bien ce point de vue, c'est pour ça que je te le partage. Mais clairement, c'est pas tous les arboriculteurs qui vont être prêts à faire ça. Et notamment, lui, il se permet de faire ça aussi parce qu'il est en circuit court, que ses fruits, il les valorise bien, il fait une belle plus-value dessus. Donc aller chercher les fruits un peu plus en hauteur, c'est OK en fait. Sur des exploitations plus grosses qui commercialisent beaucoup en circuit long, les prix sont vraiment tirés vers le bas, donc perdre 10 ou 20 centimes sur le kilo de fruits parce qu'il faut passer un peu plus de temps à aller chercher plus haut, ça va être difficile à accepter, quoi.
Il y a des fois où ça marche bien, il y a des fois où tu sais, t'en as une qui veut pas se laisser avoir. C'est assez subtil, hein, la conduite des moutons. Si on avait un chien, on serait, ça serait beaucoup plus facile.
Mais surtout en petit groupe, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus mobiles que nombreuses.
Possible, ouais, carrément. L'effet. Bon, on apprend des choses aussi sur ça. Ça a un côté un petit peu artificiel, hein, de faire des groupes de 4 moutons, c'est discutable, hein, parce que ça arrive jamais en fait, tu vois. Donc c'est pareil, comme je disais que les dynamiques sociales elles sont complexes et importantes, et ben du coup, dans quelle mesure est-ce qu'on observe à l'échelle d'un groupe de 4 moutons, on peut l'extrapoler sur un troupeau de 500 ou 1000 bêtes, c'est délicat. Mais bon, on n'a pas les moyens de travailler avec 100 moutons à un niveau expérimental, quoi.
À suivre.
C'est un projet qui s'appelle Écorce. C'est un acronyme un peu tiré par les cheveux pour dire étudier la cohabitation de l'arboriculture fruitière et de l'élevage ovin.
Mercredi prochain, à 13h, sur Radio Saint-Ferréol et RDWA.
Donc C'est un projet qui a commencé l'an dernier et qui dure 3 ans. Donc là, pendant les 2 premières années, c'est surtout là qu'on fait des expérimentations de terrain. Il y a aussi plein d'autres volets du projet qui sont des aspects des études technico-économiques, plutôt confiées à Agribiodrome. Et il y a aussi des volets plutôt d'animation territoriale et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on arrive justement à l'échelle du territoire à promouvoir cette pratique. Il y a une dimension pédagogique au lycée du Valentin qui intègre ça dans ses filières, notamment STAV, terminale STAV. Et il y a aussi ce volet réglementaire qui est confié à Grouf. Donc on essaie de faire quelque chose de bien à l'échelle de 3 ans. Et après, s'il reste des questions en suspens, et c'est probable qu'il reste des questions en suspens, on essaiera de trouver une suite à ce projet et on essaiera d'identifier les questions les plus urgentes auxquelles on souhaite répondre, quoi.
Merci Martin.
Avec plaisir.
T'as entendu le petit bruit d'arrachage là?
Ouais, le petit bruit.